tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
Bienvenue à bord du podcast L'œil carnivore. Vous y trouverez de l'info.
Lex Luthor, le bouffon vert, Magneto, enfin tous les connards, c'est eux qui ont fait ça.
Des critiques constructives.
Parce que ça, c'est honteux, ça. C'est la merde.
De l'amour.
Enfin, je vais tout de même pas me faire reculer sous prétexte que c'est un ami.
De l'innommable.
C'est pas un endroit pour les enfants.
Accrochez vos oreilles. L'équipage vous souhaite une bonne écoute.
Bonsoir, bonsoir à tous. Vous êtes sur le 105 de Radio Panique, 105.4 de Radio Panique, mais aussi à l'écoute de L'œil carnivore. Ah, je vois que la musique qui suit le générique s'est lancée, mais c'est pas grave. On va la laisser pour lancer l'ambiance de la soirée. Donc vous êtes à l'écoute de L'œil carnivore. Je suis Damien et je suis ce soir en compagnie de Cédric Nicolas. Bonsoir Cédric.
Bonsoir Damien.
Alors, n'hésite pas, parle près du micro, hein. On va se tenir chaud, il fait froid ce soir. Voilà, on va se tenir chaud.
Très très chaud.
Voilà. Et Cédric, t'es venu nous parler ce soir d'animation.
Exactement, c'est mon travail.
Voilà, alors tu vas pas juste nous parler d'animation, comment on modélise, etc. Mais surtout, tu vas nous parler de la technique derrière l'animation. Donc, comment, une fois que les artistes, quelque part, ont travaillé, comment bah, ça devient un film, comment on fait ce qu'on appelle une farm de rendu. Hein. C'est un peu le principe. Et puis aussi, tu as développé des outils. Donc, on va voir ça, qui leur permet bah, soit d'animer. Mais alors, les outils, il y a plein d'outils qu'on peut développer pour justement les artistes. Comme, par exemple, un des trucs les plus flagrants, c'est pour faire l'eau, par exemple, les effets d'eau, les effets de poils, des choses dans ce genre-là. Voilà.
Tout à fait.
Donc, voilà, on va voir ça avec toi. Ça va être chouette.
Tout
donc, on va parcourir l'animation ensemble. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour montrer un peu. Vous pouvez voir son travail donc sur Cédric Le Fox. Hein, il suffit d'aller voir cédriclefox.com. Et là, vous verrez notamment son reel. Alors, je peux le mettre d'ailleurs un peu. Je peux le faire tourner un petit peu. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez nous voir sur Twitch lorsque vous écoutez cette émission. Alors, cette émission est enregistrée le 15 mars. Donc, évidemment, là, si vous êtes sur Radio Panique, bah, vous nous entendez après l'enregistrement de l'émission. Mais vous pouvez quand même aller sur Twitch et voir les images dont on va parler pendant l'émission, parce que mine de rien, là, on va parler beaucoup d'images, et donc ça serait dommage de pas avoir le support visuel. Voilà, alors moi, ce que j'aimerais bien savoir, un petit peu, vas-y, installe-toi,
vas-y, avec
le micro. Moi, j'aimerais bien savoir d'abord un peu ton parcours. C'est-à-dire, à 12 ans, est-ce que déjà tu étais en train de dessiner tout le temps?
Oui.
Et finalement, comment ça s'est décidé? Comment t'es arrivé jusque...
En fait... Donc je dessinais beaucoup, je dirais pas que je dessinais tout le temps, mais je dessinais beaucoup, mais surtout j'étais aussi très intéressé, je crois, à comment on fait les choses, et j'étais aussi passionné de cinéma dès très tôt. Donc je crois dès 13-14 ans, je commençais à m'intéresser à comment on faisait des cinémas, comment on faisait des films, comment voilà les réalisateurs, etc. Je demandais à mes parents de m'acheter des livres sur les effets spéciaux, des trucs comme ça. Et la révélation, c'est quand j'ai vu Wallace et Gromit. Parce qu'avant, donc moi je suis français, je viens de Strasbourg, donc c'est un peu la campagne, comme ça, c'est pas Paris, voilà, et pas du tout d'une famille d'artistes, et donc en fait tous les trucs artistiques c'était un peu pour le dimanche. Alors on comprenait bien que le cinéma il y avait de l'argent, mais le cinéma c'était tout de suite quelque chose de très gros, ou peut-être, enfin bon, voilà, dans ma tête de d'adolescent, je me posais pas trop ces questions-là encore à ce moment-là. Mais j'étais, en tout cas, l'animation, il y a eu toujours ce côté un peu magique, où une image naît complètement du fruit de l'imagination. Et ça, c'était, et en plus, c'est en mouvement. Et donc ça, c'était quelque chose moi qui me passionnait. Ça m'appelait, quoi. Et un jour, j'ai vu Wallace et Gromit. Et là, j'ai compris Parce que c'est le Wallace et Gromit, c'était, je me souviens très bien, c'était le premier que j'ai vu, c'était un mauvais pantalon. Je sais pas si tu vois.
Bah oui, oui, très bien. D'ailleurs, si vous l'avez, vous avez jamais vu les Wallace
il
et Gromit.
Incroyable.
Il y a un incroyable. Mauvais pantalon et puis il y a celui sur la lune.
Tout à fait. C'est, alors je sais plus comment il s'appelle, mais c'est celui
où ils partent chercher du fromage sur la lune.
Exactement. Parce que la lune est en cheddar.
Bah oui. Et en fait, tout le monde le sait.
Je crois, et déjà à l'époque, j'écris, alors surtout déjà, j'écrivais des petites histoires et tout, mais je crois que c'est là où ça, en fait, ça m'a débloqué un truc dans la tête. À tous les niveaux, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, bon, en fait, il y a des gens qui ont réussi à faire du film d'animation de manière professionnelle. Je sentais que c'était incroyablement référencé. J'avais déjà vu à l'époque quelques films d'Hitchcock et je commençais à faire des liens, me dire, ah, mais en fait, ils sont inspirés d'Hitchcock, etc. Donc, c'est des vrais cinéphiles, c'est un vrai travail artistique, etc.
Parce que c'est vrai, t'as vraiment, là, mais c'est complètement inspiré de
oui, c'est complètement Hitchcock, avec d'autres choses, mais,
tout d'abord. En tout cas, le thriller et puis le film, le film noir et blanc, on le voit complètement.
C'est ça, ouais, ouais, complètement.
Et, le travail de la lumière, etc.
Et il essayait, c'était pas un film qui essayait d'être pour les enfants. D'ailleurs, voilà ce que je te disais, j'aimerais bien qu'on parle un moment de ça, du cinéma d'animation pour enfants ou pas pour enfants. Mais et en fait, j'ai compris qu'il y avait des gens qui étaient payés toute la semaine pour faire ça, et donc c'était leur travail.
Et tu t'es dit, pourquoi pas moi ?
Et je veux en être. Et donc voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai tout fait pour, et puis en plus ce que ça m'a amené, c'est que je pense qu'à l'époque je regardais peut-être beaucoup de films français ou enfin aussi des films américains, mais où il y avait où le film essayait d'être logique, où il y avait une espèce de construction très comme ça très académique peut-être. Enfin, c'était pas tous les films, mais je veux dire, tu vois, il y avait quand même dans le courant. Et là, voilà, c'est Gromit. En fait, c'est voilà, on va chercher. En fait, le but des personnages, c'est d'aller chercher du fromage sur la lune. Mmh. Et donc, en fait, et ça fait un film génial. Et donc là, je me suis dit, en fait, on peut provoquer des émotions avec beaucoup de choses. Et aussi des choses pas forcément logiques. Et donc, ça m'a complètement débloqué sur l'écriture. Et j'ai commencé à écrire un peu beaucoup plus de choses qui me passaient par la tête avec plus de liberté et à les dessiner aussi.
À les dessiner.
Et voilà.
Et comment, parce que bon, ça, ok, c'est le gamin qui rêve de ça, mais au niveau études, mine de rien, surtout en France où c'est compliqué, parce que finalement, si t'as pas eu une bonne note en maths, tu peux pas rentrer dans telle école, parce que y a tellement de gens qui sont. Bah, je sais que moi, j'ai eu ce problème-là au niveau des écoles de cinéma. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai atterri en Belgique.
Oui.
Parce que j'avais eu 600 maths. Alors, bah, quand t'as 600 maths, tu peux pas faire un BTS audiovisuel.
Tout à fait.
C'est absurde, mais c'est comme ça.
Écoute, alors j'avais essayé les Gobelins, mais j'étais quand même pas assez bon dessinateur pour faire les Gobelins. De mémoire, j'avais
les Gobelins, c'est une des grandes écoles.
C'est la plus grosse école de cinéma d'animation après où j'étais prof après. Donc j'étais,
bah oui,
et quand je suis rentré, j'étais finalement il y a une justice. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des courts-métrages dans ma chambre. En fait, ça a été une période, je crois que je sais pas si je le referai encore complètement comme ça, mais je me suis pris un an et demi, donc j'ai quand même réussi. Mon histoire est un peu longue, je vais essayer de la faire courte, mais je suis rentré, j'ai fait un an dans une université d'art plastique, mais j'ai juste fait un an, mais j'ai atterri au niveau d'un master d'un an. À l'époque, on appelait ça un DESS, un DES, et qui était vraiment pas terrible en termes de formation, mais par contre, moi, ça m'a donné du temps pour faire des images, ça m'a permis, et surtout ça m'a donné, voilà, à plein temps, je pouvais, et en fait, entre le moment que je racontais, voilà, ces gros mythes, et ce moment-là, j'avais trouvé mon médium qui était la 3D. Je savais que je voulais faire de la 3D, que c'était à peu près ce qui me, je sais pas, je voyais un truc là-dedans qui était complètement fou. Je pense que aussi c'était l'époque où c'était en plein essor. Je pense que j'avais un petit côté geek aussi, j'aimais bien. Et puis il y avait tout ce côté. En fait, il y a un côté mathématique.
Parce qu'effectivement, d'un côté, t'es illustrateur et c'est le dessin et finalement les histoires, etc., qui t'attirent. Mm-hmm. Ça, c'est un côté. Mais t'as aussi tout un côté technique.
C'est ça.
Parce que finalement, c'est ta deuxième jambe. Tu t'occupes aussi.
C'est ça.
Tu t'occupes aussi de toute la partie, on va dire, technique. Alors, je t'ai demandé comment te présenter. T'as dit directeur technique d'animation 3D, en gros, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, qui est un peu Et illustrateur. Non, mais voilà, c'est ta deuxième jambe. Mais là, je crois qu'on a bien compris le côté illustrateur. Ok, ça, on l'a bien saisi. Mais donc la deuxième jambe, ça, c'est venu quoi? C'est parce que oui, il y a le côté geek, geek dans le sens intéressé par un ordinateur, intéressé par.
En fait, c'est plus que. C'est vrai qu'à l'époque, je pense que ça vient de l'époque. L'ordinateur te donne un peu l'impression que tu vas pouvoir inventer un monde du début à la fin. Ce qui est en fait au final ce qui est moins vrai peut-être que ce que ça en a l'air. En tout cas, c'est plus compliqué que simplement un truc où tu peux faire à peu près tout ce que tu veux. Mais tu peux quand même faire ce que tu veux, mais c'est disons que c'est le chemin pour y arriver est pas aussi simple, mais voilà, il y avait quelque chose là-dedans où en fait je voyais je pense que j'ai toujours eu quelque part un esprit un peu mathématique, une accointance à aller vers tu vois des choses assez logiques, etc. Je me souviens d'un moment dans les salles de classe où déjà à l'époque je commençais à dessiner des interfaces de choses que j'imaginais. Je me disais, ah mais en fait pourquoi cet outil il existe pas, tiens je vais faire une interface. Et en fait c'est resté bon un brouillon, mais tu vois je m'amusais déjà à me dire ah, mais en fait ça serait génial d'avoir pour un outil pour faire ça, quoi. Il y avait tout ce côté en fait où on va fabriquer quelque chose avec ses bon du coup avec ses mains qui vont planoter sur l'ordinateur, mais c'est quand même ça sort quand même de la tête.
Et alors c'est marrant parce que tu avais ça donc très jeune et maintenant à l'heure actuelle bah notamment un de tes faits d'armes, on va dire ça comme ça, c'est notamment un outil pour l'animation.
Tout à fait.
Alors, qui s'appelle
Puppet Soul.
Puppet Soul.
De la Puppet. Donc en fait, pour je sais pas jusqu'où on peut aller en explication technique. Donc tu me dis si je vais trop loin.
Non, t'inquiète, je suis là. Et n'hésitez pas dans le chat à poser des questions. Donc, allez-y, il est là, il est disponible, vous pouvez n'hésitez
donc, en
pas
fait,
à poser des questions.
Puppet Soul, c'est un outil qui fait du rig. Donc en fait, le rig, c'est quoi? C'est donc quand on veut faire un personnage et quand on veut l'animer en 3D, en sachant que du coup la 3D, on est plus proche en fait des marionnettes. Donc on est plus proche de Wallace et Gromit que de Disney par exemple, puisque c'est en gros, on est sur des logiciels qui vont reproduire la vie, on va dire, avec des caméras qui ont une focale, etc., sur lequel on modélise en 3D. Donc, en fait, on fait vraiment en volume et tout se passe donc virtuellement. Mais à un moment, il faut faire le pont entre des mèches, donc qui correspondraient à des sculptures qui seraient peut-être de la glaise passée au four ou quelque chose comme ça, en tout cas qu'on peut pas bouger, à des choses qui sont un peu plus molles pour reproduire des mouvements organiques comme bon des humains, des animaux ou n'importe quel objet qui se déforme, on va dire, quoi. Enfin, n'importe quelle entité vivante qui se déforme. Et mon outil, qui est à la base, en fait, donc qui n'est pas un logiciel à part, qui est en fait un plugin qui vient se mettre sur Maya, le logiciel Autodesk Maya, qui est le standard actuel, même si les choses évoluent.
C'est encore bien utilisé, Maya.
Mais c'est encore beaucoup utilisé, oui. Alors.
Oui, parce que ça, on va en parler après de l'évolution des différents outils.
Alors, mais c'est vrai que Maya est capable de manger des scènes d'une complexité folle, et là où les autres logiciels, encore malgré toutes leurs qualités, sont moins capables de manger des scènes d'une grande complexité, quoi.
Voilà. Donc en gros, ce que t'as appelé rig, c'est ça. Hein?
Rig.
C'est rig. En gros, c'est comme si on mettait un squelette à l'intérieur de ce qu'on a modelé en 3D.
C'est ça.
Et ça permet après de l'animer, etc. Alors plus le squelette est précis, plus on va avoir de d'animation possible avec ce squelette. Et ben à ce moment-là, on va pouvoir faire des animations de plus en plus réalistes.
C'est ça.
Alors attention, je sais que c'est pas forcément le réalisme d'ailleurs qui est cherché en 3D, mais en tout cas il faut que ça soit crédible.
On va dire précis.
Voilà, précis et crédible, et en tout cas pour que l'animateur, dont c'est le travail quelque part de retranscrire une animation, puisse faire ce qu'il veut, quoi.
Tout à fait. On va dire que c'est la précision.
Et alors, ça t'est venu comment de faire ça? Parce que
en fait, ça m'est venu que je trouvais pas d'outils. Je me disais, c'est quand même fou parce qu'on utilise l'ordinateur. L'un des intérêts d'utiliser l'ordinateur, c'est qu'on peut dupliquer des choses autant de fois qu'on veut. Et sur cette étape de travail qu'est le rig, on se retrouve à faire les choses à la main des milliards de fois. Donc en fait, moi, je commençais à aller de prod en prod, donc en fait de projet en projet. Et puis à chaque fois, je devais modéliser des personnages et après les riguer. Et quand je riguais, je me retrouvais à faire tout le temps les mêmes actions. Et en fait, à un moment, je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai commencé à chercher. Alors, il y avait des choses qui existaient à l'époque, mais il y avait rien qui me convenait. Au final, je trouvais que c'était des gens qui avaient fait des choses dans leur coin. Et en fait, je me suis dit, d'un coup, j'ai vu le challenge. En fait, je crois que j'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, je vais le faire. J'ai acheté un livre de programmation et j'ai fait une première version qui était très mauvaise, une deuxième version qui marchait pas. Et la troisième version a commencé à marcher. Et de là, j'ai commencé d'abord à l'utiliser pour moi. Et donc, en fait, au bout d'un moment, je commençais à délivrer des choses de plus en plus rapides, de plus en plus rapidement, jusqu'au jour où, en fait...
Il y en a qui t'ont dit, comment tu fais ?
Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et donc, je l'ai fait pour la première prod sur laquelle je l'ai vendu. Il n'y avait pas encore d'interface graphique, donc c'était tout à la ligne de commande. Ouais, c'était voilà. Mais comme c'est quelque chose qui est quand même relativement technique.
Oui, les gens qui l'utilisent.
Bon, ça passait. Mais voilà, quand même dans le studio, ils m'ont dit, tu sais, si tu veux que ton produit, augmente, si tu veux. Là, en gros, j'avais profité moi d'un projet où en fait ils étaient un peu sous l'eau, ils n'avaient pas tellement le choix. Moi, j'étais là, je leur ai dit, écoutez, si je viens, c'est avec mon produit parce que bon, j'ai joué un peu un coup de poker. Je leur ai dit, c'est moi avec le produit ou c'est rien. Ils ont dit d'accord. J'aurais dit, il n'y a pas d'interface. Ils ont dit d'accord. mais après, c'est vrai qu'ils m'ont dit, ouais, s'il y a une interface, c'est quand même mieux. Et donc, après la fin du projet, je me suis pris 2 mois, j'ai codé l'interface, et voilà.
Donc, t'as vraiment fait ça tout seul? Il n'y a pas eu quelqu'un qui est venu par-dessus t'aider?
Alors, il y a des gens après qui sont venus, parce qu'après, alors au début, je l'ai fait tout seul. Et après, il y a une personne qui m'a... Alors, il y a quelques personnes qui m'ont donné des coups de main par-ci, par-là, principalement parce que au bout d'un moment, ça a été utilisé sur des prods, notamment beaucoup en Belgique, dans un studio qui s'appelle Walking the Dog. Voilà, notamment par exemple pour les films Richard the Stork. Ils sont des films de voilà où là on peut voir, je sais pas si on voit en même temps.
Non, mais je peux mettre.
Mais voilà.
C'est... Pour ceux qui sont en direct avec nous.
Et donc c'est les oiseaux qu'on voit par exemple. Donc là il y avait beaucoup de travail, il y avait aussi du travail d'optimisation. Et donc une des personnes que je vais quand même citer, qui a été une des personnes qui m'a le plus aidé, qui a codé notamment. Tout le module du rig qui permet de gérer le facial, donc le rig facial, qui est un très très bon animateur et codeur aussi. On a un parcours un peu similaire, qui s'appelle Sander Clerks, qui est un Belge flamand, mais qui habite maintenant à Bruxelles. Voilà, donc ça c'est. Donc là, c'est toute la partie, voilà, le rig, c'est les petits squelettes qu'on voit à l'intérieur. Là, c'est le rig facial qui a été fait. Enfin, c'est même tout le rig du corps. Donc, c'est tout ce qui va permettre de donner l'élasticité du mouvement, quoi.
Alors, moi, je suis très surpris quand même. Pas que t'aies produit un plugin, parce que ça, à la limite, tout graphiste, ou en tout cas, tout utilisateur, pas graphiste, mais tout utilisateur, un peu, notamment des logiciels open source, etc., utilise des plugins. Mais moi, j'ai le souvenir de ce que je lisais, notamment au niveau de Pixar, qui font partie des grosses boîtes d'animation, qu'ils avaient en interne leur propre développeur, en fait. Tout et que, fait. Voilà, pour l'eau, ou pour l'animation, ou pour etc. Donc, en fait, je suis surpris que quelqu'un, entre guillemets, hein, je prends des grosses guillemets, mais sorti de nulle part, arrive à faire quelque chose. C'est dans ce sens-là où je me dis... Moi, de ma place, je me suis dit, mais non, mais il y a déjà quelqu'un qui a dû se faire ce truc-là, et nettement mieux. Non,
écoute, ouais, tout à fait. J'ai pas spécialement de réponse à ça. Moi, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais cherché des outils, évidemment. J'avais commencé par en chercher. J'en avais trouvé, mais... Alors, par exemple, un des studios où j'avais travaillé, ils avaient leur outil qui correspondait moins à ce que j'avais fait. Et par exemple, je le trouvais très mauvais. Tu vois, alors sans doute que, et en fait c'est, mais je pense qu'il était par exemple à l'époque, je voyais, quand je voyais leur code, je voyais que le code était incroyablement supérieur au mien. Mais au final,
en fait, la grosse différence, c'est que comme toi, c'était deux jambes, bah, t'as eu l'occasion de faire ce que réellement un animateur chercherait à avoir, en fait.
C'est ça, voilà. Et donc, je me suis dit, ah, mais en fait, j'avais envie de faire l'outil que moi, j'avais envie d'utiliser, pour faire du rig, qui était une chose que je commençais déjà à faire, beaucoup. Donc ça, c'est des vidéos que j'ai fait. Là, on voit en ce moment cet écran là.
Alors on voit en ce moment, mais on est à la radio, faut pas oublier. Donc
oui, tout à fait. Tout à fait. Donc là, parce que du coup, pour ceux qui sont sur Twitch, là, t'es en train de montrer une vidéo de voilà que j'ai fait pour montrer comment
on anime, voilà, comment ça fonctionne.
Ça c'est vraiment genre en mode tutoriel. Tu vois, ça dure 40 minutes. Là, je montre. Comment faire un personnage du début à la fin.
Et si tu devais le dire à un néophyte, pourquoi ce plugin est particulier par rapport à un autre,
c'est ce qui permet de faire tout très vite.
D'accord.
Voilà. Là où je trouve que les autres outils, en tout cas sur Maya, ne font pas tout et beaucoup moins vite. Voilà. Et surtout, je le trouve fun à utiliser, quoi. Donc, okay. Voilà. Moi, je m'amuse beaucoup quand je l'utilise, mais, là où,
d'accord.
Voilà.
Donc, ça s'appelle Puppet Soul. Et si jamais vous nous écoutez et que
c'est ça,
vous avez une boîte d'animation, n'hésitez pas à contacter Cédric.
Exactement.
Voilà. Donc, en fait, concrètement, de ce que je vois, donc, tu as développé des plugins, tu fais de l'animation, donc toi-même t'animes aussi, c'est ça, tu dessines. Je sais, parce qu'on en a discuté, que tu as aussi travaillé sur les workflows de production, c'est-à-dire de... puisque une fois qu'un artiste, quelque part, fait l'animation d'une scène avec ses personnages, etc., il faut faire le rendu, ce qu'on appelle le rendu de ces images-là. Donc, ça veut dire que là, tu as des ordinateurs qui vont travailler pour fournir un certain nombre d'images par seconde. Ça, je ne sais pas si on en reparlera, mais en gros, pour que ça ressemble à un film. Et là, c'est quand même un travail qui est pas si simple que ça, de faire en sorte de sortir quelque part toutes ces images en temps voulu, parce que c'est aussi ça la difficulté, c'est-à-dire que... alors, je sais pas si c'est toujours le cas, mais je me souviens que, moi, quand j'ai fait mes études, chaque image, c'était une horreur intersidérale à rendre.
Ouais, de moins en moins, maintenant.
Je suppose qu'il y a quand même une puissance de calcul qui a bien évolué, mais ouais, ça doit être...
Il y a le temps réel aussi, maintenant.
Alors, ouais, il y a le temps réel. Alors, justement, ma question, c'est est-ce qu'il y a encore vraiment beaucoup, beaucoup de temps de calcul, ou maintenant, on arrive quelque part, l'artiste travaille, il voit le temps réel et il peut lancer l'animation?
Bah, c'est vrai que là, on est quand même sur une période, alors ça nous lance aussi sur l'intelligence artificielle, mais c'est vrai qu'on est sur une période ultra fascinante. En fait, moi, en tant que en tant que graphiste qui suis à la base illustrateur, etc., une des raisons, parce que c'est bizarre, c'est vrai que des fois, je me dis, j'ai fait un logiciel de rig, c'est quand même fou, qui est le truc finalement le moins graphique peut-être dans la partie de la 3D, mais à l'époque, donc moi j'ai commencé ma carrière en 2002, les temps de rendu, comme tu dis, étaient ultra longs. Et donc en fait...
Moi je me souviens, j'allais me fumer une clope, à l'époque j'allais me fumer une clope au moins pour faire un rendu.
Il valait mieux qu'elle soit très longue.
Voilà. Et tu vas te faire un café, etc., ça pouvait être... Ça rythmait ta journée en fait.
C'est
hein,
ça, c'est ça.
Vraiment le rendu.
Et c'est vrai que c'était...
Et même le rendu non définitif.
Tout
parce que généralement, tu faisais un rendu provisoire pour voir si l'animation marchait ou si ta scène était à peu près correcte. Et puis après, tu relançais un
tout
rendu.
Tout à fait. Et c'est vrai que quand je suis arrivé en Belgique, enfin après, j'ai travaillé aussi en France, mais c'était un peu l'époque, le premier projet en tout cas que j'ai fait ici en Belgique, il y avait une très très grande ferme de rendu. À l'époque, ils venaient d'en acheter une, c'était un peu révolutionnaire pour l'Europe et tout. J'étais waouh, putain. Et du coup, on pouvait avoir ces images en un temps record, mais même ça restait encore très très compliqué, très long. Et maintenant, c'est vrai que le temps réel, ça permet d'avoir des choses qui sont fascinantes. Et oui, ce que je voulais dire, pardon, c'était que j'avais un peu lâché ce côté rendu, donc finalement le truc d'avoir l'image finale, mais parce que l'animation, tu saucissonnes tellement l'image qu'il y a un côté des fois où, en tout cas en production, je préférais presque, enfin je préférais l'animation, la modélisation et le rig, où mm-hmm. en fait c'est des choses où tu vois directement ce que tu fais, quoi. T'as moins cet effet de latence, quoi. Maintenant c'est en train de changer avec les outils comme Unreal et Blender, entre autres, et Unity aussi, et bon, il y en a d'autres.
Parce que pour nos auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, Unity et Unreal, c'est pas des moteurs faits normalement pour l'animation, mais c'est des moteurs faits pour
le jeu vidéo. Ouais.
Et donc maintenant, ces moteurs-là commencent à arriver. Bah,
c'est ça.
Ils arrivent dans les maisons de production.
C'est ça.
Et est-ce qu'ils sont utilisés de la même manière que, parce que je suppose que la philosophie doit être assez différente.
La philosophie est complètement différente. Et alors j'ai tâté un petit peu du Unreal et j'en ai fait. J'en ai fait de mon côté, j'ai fait quelques petits projets avec, et c'est vrai que c'est complètement différent. Unreal, c'est une grosse usine à gaz, il faut quand même se la coller, mais quand on y arrive, c'est très satisfaisant, parce que on a en fait tout ce côté saucissonné de l'animation, où normalement on va faire en gros en 3D, comment, de manière historique, en fait on va faire des images. Mais si on a un personnage sur un décor, chaque partie va être rendue sur une image à part. Donc, on va faire le personnage, le décor, le ciel, par exemple. Ces trois images vont être remises dans un logiciel de compositing, un peu comme on mettrait trois sons pour quelqu'un qui fait de la musique et qu'après, il y aurait un mixage, quoi. Mais chaque étape, ça demande un logiciel différent, des compétences différentes, etc. Et en fait, avec Unreal, on voit tout. C'est-à-dire que ça ressemble presque plus à de la photo.
J'envoie des images, c'est quand même bluffant.
C'est complètement bluffant. Et tout ça, faut se dire que c'est donc en temps réel. Ça veut dire que il n'y a pas de temps d'attente entre ce qu'on voit. En fait, ce qu'on voit, et ça, c'est vraiment ce qui se passe quand on travaille dans la vue, c'est ça. Et ça, c'est totalement révolutionnaire, parce que c'est impossible. Même il y a 5 ans, quand on voyait ça, c'était quelque chose de complètement incroyable, quoi. Alors après, le truc, c'est que Unreal, c'est quand même un logiciel qui est ultra compliqué. C'est difficile de venir quand même avec un petit claquement de doigts. Faut quand même, ça reste quand même un vrai boulot.
Rien que de l'apprendre, en fait.
Ouais, c'est ça. Mm. C'est ça. Il est génial, il est incroyable, mais voilà, c'est vrai que c'est pas un truc qu'on fait le samedi soir.
Et parce que d'après ce que tu racontes, tu peux bosser à plusieurs sur la même scène, je suppose, quand même.
Tu peux complètement bosser à plusieurs sur la même scène. Oui, tout à fait. Oui.
Sinon, c'est injouable.
Ah oui, complètement. Tu peux. Oui, c'est ça. Sur Maya, par exemple, comme c'est un peu la référence. Tout le monde utilise ces systèmes de noms, mais ça s'appelle des références. C'est-à-dire qu'on va, une personne va travailler sur quelque chose, va le donner. L'autre personne qui va faire la scène va prendre la modélisation de plusieurs personnes, mais en travaillant sur les objets temporaires. Et puis à chaque fois qu'une personne fait une étape de travail, il la renvoie, et tout ça, c'est centralisé. Donc voilà, et donc ça, c'est assez impressionnant. Après, en ce moment, je travaille pour le studio L'Enclume, qui est un très chouette studio à Bruxelles, et on travaille sur Blender.
Alors Blender, qui est un logiciel historique, hein, parce que moi, quand j'étais à l'école, ça existait déjà. On pouvait faire plein de choses avec déjà.
Tout à fait. Mais à l'époque, c'était très déconsidéré, parce que c'est vrai qu'il était c'était plus un logiciel, on va dire, de passionné qu'un logiciel de pro. Et il y a quelques années, ils ont sorti la version 2.8, comme ils disent, et donc ils ont tout fait pour le rendre plus professionnel. Et l'écart est en train de se. Enfin, maintenant, c'est voilà, on commence à aller sur le logiciel de pro. Et là où Unreal, c'est vraiment centré sur le rendu, donc sa modélisation, faut la faire à part. Et l'amener après dans Unreal. Blender, c'est vraiment plus un logiciel ultra généraliste. On va pouvoir faire tout dans le logiciel. Ça va être moins impressionnant en termes de rendu, donc on ne pourra pas obtenir des choses aussi poussées graphiquement avec autant de maillage, enfin voilà, avec des on va dire que numérairement, ça sera moins extrême. Mais il est quand même très puissant, quoi. Et ça a l'avantage d'être plus, on reste toujours dans le même outil. Il y a un côté plus simple, quoi. Là où Unreal, c'est très compliqué, oui, il faut encore d'autres connaissances.
En plus, je suppose qu'il y a toute une partie d'Unreal que vous n'utilisez pas, c'est-à-dire la partie interactivité et
ah oui, c'est
et,
ça.
Il ouais, y a vraiment toute une partie qui est laissée de
oui,
côté, quoi.
Oui, parce qu'à la base, c'est un moteur de jeu vidéo, donc ouais, en fait, bah, c'est fait.
Normalement, un arbre, tu te cognes dedans. Là,
c'est
vous vous en foutez, en fait.
Non, complètement. Complètement.
Donc, il y a vraiment toute une partie qui n'est pas prise en compte. Mais donc, ouais, ça commence, les mondes commencent à se rassembler. C'est vrai que, bah, ça fait un moment qu'on le voit dans les jeux vidéo, etc., où on se dit, waouh, ça se rapproche. Il y a les RTX, donc qui sont alors RTX pour Nvidia, il y a un équivalent pour AMD, c'est les deux grands constructeurs de cartes graphiques pour les jeux vidéo. Et effectivement, là maintenant, ce qu'on appelle le RTX, ça permet de faire les rendus, comment on appelle
en
ça
retracing.
En ray tracing. Et moi, je me souviens à l'époque, lorsqu'on lançait un rendu pour ray tracing, ouais, c'était juste long. Pour juste pour de l'architecture ou des trucs dans ce genre-là déjà. Et c'était, mais alors là, tu savais que t'étais parti pour c'est la ça. Gloire, parce qu'il faut savoir que en gros, on choisit des sources de lumière, et après chaque surface va réfléchir cette source de lumière, mais une fois, deux fois, trois fois s'il faut. Donc ça devient un calcul de fou. Et ce qui est quand même assez hallucinant, c'est comment, on le voit d'ailleurs dans la scène là qui est montrée, comment maintenant en temps réel on peut faire modifier cette lumière.
Ouais, tout à fait. Non, c'est hallucinant.
Alors qu'il faut savoir avant dans les jeux 3D. Une fenêtre, elle n'était pas réellement rendue, en fait. C'était un pré-rendu qu'on mettait derrière, etc. C'est d'ailleurs pour ça que dans plein de jeux, lorsqu'on passait on regardait par la fenêtre dans un sens ou dans l'autre, hein, si on était à l'extérieur ou à l'intérieur, on voyait qu'une image pré-rendue, rarement à l'intérieur directement, quoi.
Tout à fait, tout à fait.
Donc voilà, donc ça c'est très chouette. Là, toi, tu bosses en ce moment, donc tu m'as dit avec.
Alors, je suis avec le studio L'Enclume et on fait un film qui s'appelle Rufus. Donc c'est le même studio sur lequel j'ai travaillé en faisant Yuku et la fleur d'Himalaya il y a quelques années.
On va pouvoir se regarder un peu ça. Vas-y.
Et voilà. Et donc en fait, j'aime beaucoup ce studio parce que. Pour moi, ils ont une vraie approche de la 3D, mais qui est en mode 2D.
C'est joli, oui. Alors c'est ça, oui.
Qui est en mode illustration. Pardon.
Faut un peu expliquer. C'est-à-dire que, alors je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein, qui sont parce que en gros, normalement, à la fin, ça reste un film, donc on est en 2D. On est d'accord au final.
Tout à fait.
Au final, tout ça reste de la 2D. Mais pour faire de l'animation, on peut soit dessiner les images une par une, à la manière, on va dire, de Disney traditionnel. Ça, je crois que tout le monde a un peu cette image de Mickey et de voir les différentes animations de Mickey. Voilà, ça c'est l'animation traditionnelle. Il y a encore beaucoup de choses qui sont faites comme ça, mine de rien, même en jeu vidéo.
Tout
faut
à
le
fait.
Savoir, il y a encore des animations de sprites, etc. Parce qu'il y a quelque chose qui fonctionne encore dans notre imaginaire, en tout cas, et dans le choix graphique. Mais on peut aussi animer, faire de la 2D, parce qu'effectivement, là, les images qu'on voit, donc là, c'est le film dont on parle, c'est Yuku et la fleur de l'Himalaya, qui est sorti en 2022.
Tout à fait.
Et en fait, c'est de la 3D. Alors, moi, ce que me disait notamment un copain qui s'appelle Nicolas Pochet, qui était un des chroniqueurs de l'œil carnivore et qui est pareil, qui est un animateur, c'est que ça donne pas du tout le même style de résultat, du tout. C'est vrai qu'on peut faire plein de choses avec la 3D, mais ça donne un autre effet.
Complètement. Alors,
notamment au niveau de l'animation.
Mais je pense que là, on est en train d'arriver sur une maturité, je pense, au niveau de l'animation, où en fait, on arrive à se passer un peu du côté 3D qu'on avait beaucoup, qu'ont initié les films de Pixar, qui ont été une révolution à l'époque. Mais en fait, qui ont eu quand même le mauvais côté de vouloir uniformiser. Enfin, ils n'ont pas voulu uniformiser. C'est les autres personnes qui sont uniformisées. C'est-à-dire qu'ils ont tracé une voie qui était la leur. Donc, ils l'ont fait de manière naturelle et c'est très bien qu'ils l'aient fait parce qu'ils ont... Voilà, c'est vrai qu'ils ont révolutionné des milliards de choses. Après, ils ont tout le monde a voulu se mettre derrière eux et du coup, il y a eu un côté d'uniformisation, quoi. Il y a eu aussi une maturité technique, etc. Mais qui manquait à l'époque à la 3D pour aller un peu plus loin que ce côté où on essaye d'imiter la réalité, quoi. Et maintenant.
Et en même temps, je trouve que Pixar, justement, certes, dans les premiers, tu sentais bien qu'ils montaient en, entre guillemets, en gamme et de plus en plus proche, mais justement, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est, je pense à Monster et compagnie ou etc., c'est quand même à garder un style graphique qui fait que, au final, je trouve
ils sont pas dans l'hyper réalisme.
Voilà, je trouve que finalement un Monster et compagnie passe mieux qu'un Shrek.
Tout à fait.
Qui quelque part est plus dans la réalité, et qui je trouve fonctionne moins bien dans l'idée graphique, quoi.
Mais en fait là, avec Youku par exemple, l'idée c'était de créer des outils. Donc on a utilisé Blender et l'idée c'était de créer des outils qui donne l'impression d'avoir quelque chose qui se rapproche beaucoup plus de l'illustration. Mais il faut se rendre compte que si on avait dû animer tout ça à la main, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Mais ce que j'aime bien aussi dans cette approche, bon là qui est pas la mienne, hein, puisque c'est pas moi qui ai fait l'animation, moi je me suis occupé avec donc là le directeur technique en l'occurrence c'était pas moi non plus, c'était un collègue qui s'appelle Pierre Jadoul au studio de L'Enclume, et c'était de créer au niveau de l'animation un côté où on soit. Donc on anime ce qu'on appelle on anime en deux, c'est-à-dire que normalement il y a 24 images secondes, les films de Pixar, comme beaucoup de films en 3D, essayent d'animer en 25 images secondes.
Ouais, alors 25, pour info, le 25 images par seconde, c'est le nombre d'images du cinéma, c'est 24 normalement.
Alors c'est 24.
Ouais. Voilà, 25 c'est la télévision en PAL, donc européenne. 30 c'est ça.
On va dire 24, 25, 30.
Et 30 non mais parce que maintenant tout le monde joue avec les caméras, les choses, etc. Et 30 c'est c'est pour les États-Unis et je cherche le NPC. Voilà. Maintenant avec la HD, etc. Et notamment qu'on n'est plus avec des tubes cathodiques, ça s'est un peu harmonisé. Et on est plutôt tendance à, pour tout ce qui est vidéo, à passer sur du 30 quasiment, voire du 60. Et par contre, au niveau cinéma, je crois qu'on est encore en 24, sauf ce que peut faire Cameron avec Avatar, etc., ils vont monter à, je ne sais plus, 120, je crois. Pour Avatar, à un moment, ils montent à 120 images par seconde. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, à 24 images par seconde, c'était le deal au départ de... au niveau, le problème c'est que la pellicule coûte très cher. Donc, plus on allait accélérer la pellicule, plus le mouvement avait l'air fluide. Mais si on accélère trop, ça coûtait trop cher de tourner un film. Donc c'était un compromis entre le coût de tournage avec la pellicule et le fait que l'œil ne distingue pas ou de manière complètement subliminale le nombre d'images qui défilent. Et donc ça, pendant très longtemps on s'est habitué à ces 24 images par seconde, 24, 25, ça dépendait, et c'est vrai que maintenant on s'est habitué, alors il y en a certains qui disent que c'est à cause de l'ordinateur, à des taux d'image de rafraîchissement beaucoup plus importants. Je sais pas ce que toi t'en penses à ce niveau là
Alors moi j'ai peut-être une anecdote à raconter. Quand j'étais animateur à un moment, j'étais animateur en Espagne, donc pour un studio qui s'appelait Candor Graphics, et on faisait de l'animation et on arrivait à jouer nos animations en temps réel, plus ou moins, c'est-à-dire quand on faisait play sur le logiciel, on jouait notre animation à 12 images secondes. Donc c'est-à-dire que c'était pas l'animation finale, il fallait ensuite, si on voulait voir l'animation finale, faire le rendu, et là on la voyait en 25 images secondes. Et donc là, à ce moment-là, j'étais tout jeune animateur, et en fait, j'étais très content de mes animations en 12 images secondes, et j'étais pas du tout content de mes animations en 25 images secondes, et je trouvais qu'il fallait deux fois plus de temps pour avoir un résultat qui était jamais mieux. Parce qu'en fait, l'œil humain va, dans une certaine mesure, combler les vides.
Ah, mais
et donc en fait, une animation à 12 images secondes, on va dire que si on met... deux vidéos avec une animation à 24 images secondes ou 25 ou 30 et une animation à 12, on va voir effectivement la différence. Si on demande, on dit, OK, il y en a une qui est plus fluide que l'autre. Après, la question, c'est est-ce qu'il y en a une qui est plus intéressante que l'autre? Et en fait, pas forcément. Et donc après, alors par contre, l'animation s'appréhende de manière un peu différente si on sait qu'on anime en 12. Donc on anime ce qu'on appelle en 2, parce qu'on anime une frame sur deux. Mais moi, je suis très fervent. Et voilà, par exemple, Wallace et Gromit, c'est ça. C'est comme, comme à l'époque, c'était... Enfin, à l'époque, ils en font encore, mais des animations en pâte à modeler.
Et que chaque seconde tournée, c'est une horreur intersidérale. C'est ça. Ils tournent en 12. Et voilà, c'est combien, c'est du 12?
Alors, c'est pas toujours en 12, parce que les mouvements très rapides, si tu les fais une frame sur deux, t'as trop de saccades. Mais, démarche normale, ou ce qu'on appelle l'acting, c'est-à-dire juste des personnages qui vont parler, qui sont face à face et qui vont parler, comme nous, par exemple, avec la plupart du temps, c'est animé en deux. Donc, c'est-à-dire, c'est animé en 12 images secondes, simplement parce qu'en fait, comme c'est des vraies marionnettes, ou on va dire, même si c'est du dessin, des vrais dessins, l'écart entre les images devient tellement faible que ça devient impossible à faire.
Et surtout, tu doubles tout, quoi. Oui, oui, oui.
Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, tu doubles tout pour un résultat qui est pas forcément là, quoi. Et du coup, en animation, par exemple, Pixar ont dû faire ça parce que du coup, ils se sont dit, bon, on a des ordinateurs, donc 24, 25, 30 images secondes.
Oui, parce qu'en 3D, tu t'en fous, ton animation, tu pourrais même faire 30 images par seconde. Bah, 60, 120.
En fait, techniquement, oui, mais artistiquement, non. C'est ça qui est intéressant.
C'est ce que tu essayes de nous expliquer. Voilà. C'est-à-dire que, artistiquement, au final, des fois, du 12 est préférable par rapport à ce que tu veux exprimer.
C'est ça, tout à fait. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, dans le film de Spider-Man dans les multiverses, qui était un des premiers films blockbuster Hollywood, etc., à tester un peu des choses qui sortent de ce côté rendu Pixar, DreamWorks, etc.
Ah oui, tu le situes là-dessus, toi.
Ah oui, complètement. En mainstream,
c'est-à-dire vraiment, en film qui est fait pour fonctionner le blockbuster, quoi. Ouais.
C'est ça. On va sortir des courts-métrages, on va sortir même peut-être il y avait Marianne Satrapi avant ou des choses comme ça ou Harry Fullman, je sais pas, mais dans le
blockbuster hollywoodien
pour moi c'est à ma connaissance, j'en ai pas vu d'autres, ou en tout cas j'ai pas de souvenir de
mais c'est vrai que avant. Si tu regardes, je sais pas si tu as vu Le Chapoté 2.
J'ai pas vu Le Chapoté 2.
Alors bon, c'est discutable, mais je trouve qu'au niveau, justement, il joue énormément sur ce rapport entre de la 3D et à des moments des passages en pur 2D avec un rendu particulier, ce qui est assez rafraîchissant au final. Alors après, je crois qu'il fait pas l'unanimité, mais franchement, moi j'ai trouvé qu'on se foutait pas de ma gueule quand je l'ai vu avec ma fille. C'est je vous le conseille. C'était un bon divertissement bien écrit.
D'accord.
Et déjà, de toute façon, un film, c'est une bonne histoire.
Tout à fait. Ça change pas pour le cinéma d'animation.
Voilà. Exactement. Et, ok. Donc, ouais, là-dessus, c'est là-dessus que tu voulais venir, en fait, sur le fait que, maintenant, ça y est, il commence à y avoir de nouveau de la créativité, même au niveau, on va dire, des films très, très grand public.
C'est ça. En tout cas, il commence à y avoir un autre chemin qui se dessine, où déjà, je pense qu'en fait, les outils comme Blender, par exemple, ou Unreal, ou des choses comme ça, voilà, deviennent, en plus, ça aussi, c'est intéressant d'en parler, c'est des logiciels qui deviennent open source. Enfin, qui sont open source, donc en fait, Unreal, tout le monde peut
voir. Unreal, c'est open source.
Unreal, c'est open source, aussi fou que ça puisse paraître avec cette technologie-là, c'est open source.
Ah oui, mais je suis fou, parce que...
Alors, t'es complètement fou.
Pour ceux qui ne savent pas, Unreal, ça appartient à Epic.
C'est ça.
On est d'accord. Ouais. Epic, qui est une des boîtes de jeux qui a le plus d'argent.
C'est ça.
Parce que franchement, ils en balancent plein par la fenêtre. Mais alors, ils y vont, mais alors... Et effectivement, une de leurs sources de revenus, c'est...
C'est le moteur du jeu vidéo.
Mais donc... si c'est open source, qu'est-ce qu'ils vendent? Parce que je sais que normalement un développeur qui utilise l'Unreal paye une licence quand même.
Alors
licence,
c'est là où c'est très malin
sur la vente.
C'est que en fait tout le monde peut utiliser Unreal. En fait, on doit leur verser un pourcentage des royalties qu'on a gagné avec le produit fait avec Unreal, si celui-ci dépasse un certain montant, qui est quand même un montant, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais on est dans l'ordre des centaines de millions, mais des centaines de millions d'euros de bénéfices.
En gros, t'as commencé à gagner de l'argent, quoi.
T'as commencé à vraiment bien gagner de l'argent, et ils le disent sur leur site, c'est que pour tout ce qui est film et industrie du film, c'est gratuit et ça le restera. Donc ça, c'est complètement fou. C'est-à-dire que...
Ah oui, d'accord.
Donc, et ça, c'est complètement malade, parce que... et Blender aussi, en sachant que... Et donc, c'est vrai que c'est assez intéressant, parce que il commence à y avoir... On commence à dessiner, en fait, d'autres moyens de gagner de l'argent, bon, pour rémunérer les gens, évidemment, et aussi pour rémunérer les projets. Mais ça commence à être intéressant, parce qu'on arrive sur un modèle qui est plus un modèle participatif, où, en fait, tout le monde va participer à un projet et où l'argent va se retrouver ailleurs que simplement faire. Donc, on n'est plus dans un mode où c'est des ingénieurs qui font des outils et qui les vendent après aux artistes et où c'est deux mondes séparés. Non, tout ce petit monde-là commence à devenir un petit peu autour de la même table.
Je savais pas ça parce que pour ceux qui sont pas versés dans le monde du jeu vidéo, Epic notamment, ils ont l'Epic Game Store. Alors, franchement, je vais pas rentrer dans des débats de jeux vidéo, c'est pas le problème. Mais
en plus,
n'hésitez
pas de jeux vidéo moi-même.
Mais moi je suis joueur. Oui. Mais n'hésitez pas si vous êtes joueur ou en tout cas un joueur occasionnel et que vous avez un PC sur lequel faire tourner les jeux PC, alors téléchargez l'Epic Game Store et à peu près une fois par semaine, je crois qu'ils offrent un jeu gratuit.
Ouais.
Et franchement, il y a des petites pépites au milieu de ça. Donc moi j'en ai plein, ça m'a permis de tester plein de jeux que j'aurais pas forcément acheté et ça m'a permis vraiment de découvrir des jeux vraiment chouettes. Donc n'hésitez pas parce que ça vous permet aussi de découvrir finalement le travail d'artistes, etc. Et effectivement c'est Epic qui achète les jeux et les met gratuitement sur son store. Bon, il faut évidemment, hein, il y a une idée derrière que les gens installent leur magasin etc. Mais franchement, moi j'ai encore rien acheté sur l'Epic Game Store et pourtant je dois avoir.
Et tu joues plein de jeux.
Je sais pas, je dois avoir plus d'une centaine de jeux chez eux quoi. Et franchement, il y a des choses qui sont vraiment très chouettes. Donc,
Et c'est vrai que tu commences à avoir des jeux très poétiques. Les autres journées, comment il s'appelle le jeu du studio allemand avec la fille qui est en dépression et que tu dois aider.
Il y en a plusieurs comme ça. Ouais. Non mais
très très beau en mode jeu de journée. Tu vois les jeux un peu indie.
Il y en a plein. J'en ai fait un dernièrement d'ailleurs qui s'appelle Norco en let's play sur la chaîne. Vous pouvez regarder.
Ah, Gris, il s'appelle Gris. Comme gris en espagnol quoi. Gris.
Ok. Comme ça. Bref. Bah je regarderai. Là ça me dit rien comme ça, mais
très très beau.
Très très beau. Bah de toute façon il y a des choses magnifiques qui se font. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà. On peut avancer. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter, mais sinon on peut avancer sur l'IA.
Tout à fait.
Parce que, on va dire depuis 6 mois à peu près. C'est plus vieux que ça, on est d'accord. Hein. Les IA, on les a déjà vus apparaître un peu à droite à gauche. On a déjà vu des choses, etc. Mais on va dire depuis 6 mois, il commence à y avoir vraiment une montée en puissance de ces différentes IA, que ça soit dans la création d'images, mais aussi ChatGPT. Tu me disais d'ailleurs que tu avais testé dernièrement ChatGPT pour faire des plugins, je crois.
Tout à fait.
Donc c'est là, ça commence à devenir.
C'est bluffant. Surtout, ce qui est bluffant, c'est qu'on parle à ChatGPT comme à un humain. Donc en fait, on a un assistant. Donc c'est plus du truc qu'on va faire des bouts de copier-coller sur Google. Dis-moi comment faire ça, voilà. Et alors, faut quand même bien orienter ces questions, mais c'est assez bluffant.
Oui, parce que moi, je l'ai testé. Je suppose que parmi les gens qui nous écoutent, ils ont un peu testé, que ça soit ChatGPT, que ça soit DALL-E, que ça soit Midjourney, et il y en a plein d'autres. Ils les ont un peu testés, etc. Mais tu te rends vite compte que ils donnent des résultats bizarres. Mais ils donnent des résultats bizarres ou pas. Mais d'ailleurs, ChatGPT, des fois, il peut être bluffant en discussion. Mais tu te rends compte, si tu regardes un peu à droite à gauche, comment l'utiliser, que si tu sais poser les bonnes questions et comment l'orienter, comment quelque part mettre des presets à la discussion que tu vas avoir avec lui, il peut te sortir des trucs de fou. ChatGPT est capable d'écrire un bouquin entier en fait, et avec des chapitres, des machins, etc. C'est un truc. Alors il y a des méthodes, par exemple pour lui faire écrire un bouquin, il faut d'abord lui faire le plan du bouquin et puis et puis rentrer dans chaque chapitre, etc. Et avec ça, il finit par t'écrire un bouquin qui est cohérent, etc. C'est ça qui est fou. C'est alors, est-ce que c'est intéressant à lire? C'est un autre problème.
Oui, c'est ça, le truc.
Attention, j'ai pareil la fameuse blague ChatGPT va remplacer Google. C'est pas du tout.
C'est pas ça.
C'est vraiment pas ça. Pourquoi ? Parce que d'abord parce que c'est pas une encyclopédie. En fait, et ça, il y avait des vidéos. Je crois que j'en ai déjà parlé, mais il y a des gens qui en parlent beaucoup mieux que moi. Mais en fait, c'est un algorithme prédictif. Donc en fait, en gros, il va prédire ce que t'attends de lui, mais donc pas forcément ce qui est réel.
Tout à fait, tout à fait.
Et donc, si tu lui dis, parle-moi de l'assassinat du grand mogol du temple Ibarakir, eh ben, il va te sortir un texte, même si le grand mogol du temple Ibarakir n'a jamais existé.
Ouais, ouais.
C'est pas le problème, en fait. Donc, la vérité n'est pas un facteur. Alors, il est quand même, il y a un écolage qui est fait de ChatGPT, si on prend son exemple à lui, pour qu'il raconte pas n'importe quoi. On voit bien d'ailleurs les barrières quand il essaye de les tester, mais si tu le pousses dans ses retranchements, tu arrives à les passer sans trop de problèmes.
C'est clair.
Et comme il a absorbé une telle base de données, effectivement, il est capable aussi de coder, parce que finalement, c'est même plus simple, je crois.
C'est ça. Bah, oui, complètement.
Voilà, c'est plus simple. Alors, se pose le problème de droit d'auteur. Je sais pas ce que toi, t'en penses à ce niveau-là.
Est-ce que c'est vraiment... En fait, je pense qu'on n'est pas encore au moment où le ChatGPT et DALL-E et tous ces outils-là, Midjourney, qui sont plutôt des intelligences artificielles pour l'image, fassent des produits finis. Mais je pense que tout ça, c'est assez intéressant aussi de voir, de
se positionner. Oui, mais les droits d'auteur, comme ils ont absorbé toutes les créations qu'on leur a données, parfois, on revoit un auteur sortir de là. Ouais, on voit le style d'un tel qui ressortent, etc.
En fait, en tant qu'illustrateur...
Voilà, toi, tu te dis, ouais, oui, mais je sais dessiner comme Matt Groening, par exemple, des Simpsons, bah, je sais faire un Simpson à sa manière, par exemple.
Alors, en fait, c'est pas tellement ça le truc, c'est que, en fait, en tant qu'illustrateur ou en tant qu'animateur, ou en tant qu'artiste de manière générale, en fait, ce que fait l'intelligence artificielle, c'est en fait déjà ce qu'on fait nous. C'est-à-dire qu'en gros, pour apprendre à dessiner, on apprend d'abord à copier. Donc en fait, j'ai passé mon temps quand j'étais enfant à copier des bandes dessinées et les dessins que j'ai vus à gauche à droite. Et en fait, c'est ce que je continue à faire. Donc en fait, quand je m'achète des bandes dessinées et que je les trouve ou des illustrés ou n'importe quoi et que je les trouve incroyables parce que graphiquement, ça m'inspire, d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, je vais retrouver ces couleurs-là, tu vois, je vais retrouver des influences. Et je pense que tout le monde fonctionne comme ça, tout artiste, quoi. C'est la fameuse phrase de Picasso, que l'artiste, c'est un voleur malin. Enfin, je sais plus quelle était exactement sa phrase, mais c'était, voilà, oui, qu'en gros, le vol, il avait un truc où il disait, non, le plagiat est répréhensible. Le vol, non. Que c'est pas la même chose, en fait. Tu vois, qu'entre plagier et voler, c'est pas la même chose. Et en fait, et si tu regardes, on fait tout ça. Donc, je pense que, moi, j'ai l'impression que par rapport, parce qu'en gros, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que, ChatGPT et toutes les modèles d'intelligence artificielle ne font pas de copier-coller. Ils font de la composition. Ce qui est, en fait, complètement différent. Mm-mm. Ce qui est, en fait, de s'inspirer d'autres choses. Après, je trouve que moi, je trouve que la vraie question, au-delà du droit d'auteur, c'est plus en fait la question de la main, de la sueur humaine, en fait, pour le dire de manière poétique. Tu vois, parce qu'en fait, on se dit, en gros, pour les gens qui dessinent pas, c'est impressionnant de voir quelqu'un dessiner parce que derrière il y a une technicité comme n'importe quelle technicité comme un musicien, on se dit waouh, ouais, il fait super bien de la guitare et
il a bûché sur sa guitare,
c'est ça.
Des plombes,
ouais. Et bon, pour les illustrateurs c'est pareil, ou pour n'importe quelle compétence. À partir du moment où en fait on est capable, avec un prompt, c'est en gros la question qu'on va lui dire, donc dessine-moi un pingouin qui fait du surf ou j'en sais rien, et qu'on a une image cohérente, est-ce qu'on est encore un illustrateur? Là la question, mais en même temps, en fait, c'est une question qui est hyper vieille et que je trouve hyper intéressante, c'est-à-dire et qui a été beaucoup posée dans l'art contemporain par exemple, qui est de dire, mais finalement, est-ce que le fait de passer du temps pour savoir dessiner des choses de manière réaliste, est-ce que c'est pas plus de l'artisanat? Est-ce que le vrai art, c'est pas plutôt celui qui sait quoi dire? Et celui qui sait comment le dire, c'est pas plutôt l'artisan?
Intéressant comme question, effectivement. Effectivement, donc ça permet effectivement l'urinoir ou des choses de ce genre-là.
Exactement.
Voilà. Qui n'a pas créé lui-même, mais simplement qui l'a mis en situation.
C'est exactement. En fait, est-ce qu'avec ChatGPT tout ça, on se retrouve pas un peu sur du ready-made avec exactement les mêmes questions philosophiques? En fait, je pense qu'on va.
Alors, il y avait aussi parce que au-delà de l'artiste. Qui effectivement, moi je suis d'accord avec toi, hein, ce qui est intéressant c'est le point de vue de l'artiste. Au-delà de ça, il y a quand même des gens qui gagnent leur vie en fournissant des illustrations. Je prends un cas que je connais bien, le jeu de rôle par exemple. Quand un éditeur veut sortir un jeu de rôle, bah il y a besoin de mettre des illustrations et donc par la force des choses, il y a un illustrateur qui bosse pour fournir les illustrations. Franchement, avec ChatGPT, avoir les illustrations entre guillemets random, tu vois, ok, tu choisis, etc. Mais franchement, ce qu'arrive à faire, pas ChatGPT, Midjourney ou Dali, franchement, c'est largement suffisant. D'ailleurs, moi, le dernier interview que j'ai fait de Steve Fabry, qui avait sorti le jeu de rôle The Night Stalker, son illustrateur habituel n'était pas disponible.
Non.
Si, et donc pour le...
Mais non.
Mais si, pour le pour le supplément qu'il avait fait pour sa campagne, il l'a fait via l'IA. Non. Si.
Ouais. Mais non, je pense que en fait
et donc là il y a un problème de non mais il y a effectivement une disparition d'un certain type de métier qui est pas forcément le plus intéressant, on est bien d'accord. C'est-à-dire là on se retrouve avec du tiré à la page parce que typiquement le jeu de rôle bah il y a pas un bal, c'est aussi pour ça qu'il le fait hein, tu gagnes pas d'argent en faisant des scénarios, des machins, des trucs. Il y a vraiment pas d'argent là-dedans à gagner à part si tu fais du ADD et encore, mais sinon il y a pas d'argent. Donc c'est vrai que dans ce système là, bon, à la limite, c'est pas très très grave, mais je pense à plein d'illustrateurs, je dis même un photographe.
C'est marrant parce que je pensais à la photo, justement, j'attendais que...
Même un photographe, tu fais un bouquin sur les plantes de jardin, j'en sais rien, comment planter, etc. Bon, bah, tu demandes à Midjourney de te faire un plan de tomate, un plan de poireau, un plan de machin, tac, 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 et puis voilà, et t'as pas
photos,
payé...
Les photos, c'est vrai qu'ils sont rarement intéressantes en tant que telles et qui font chier sans doute même les photographes, mais qui les aident à vivre.
C'est comme ça que les professionnels de l'audiovisuel gagnent leur vie avec la c'est pub ça. Pour pouvoir faire les courts métrage gratuitement.
Après, est-ce qu'il n'y a pas... Moi, c'est marrant parce que justement, en parlant photo, moi, il y a quand même une anecdote qui me vient assez souvent en tête. C'est j'ai vu, il y a très longtemps, un reportage de mémoire. C'était sur Annie Leibovitz, la photographe, une photographe. Et en fait, à l'époque, elle est donc, une photographe qui faisait beaucoup de portraits de stars et tout. Et en fait, elle expliquait, donc c'était il y a, c'était quand moi, plus ou moins quand je commençais ma carrière. Et à l'époque, il n'y avait pas vraiment de photos digitales. Ce n'est pas encore, parce que c'était pas assez poussé, etc. Ça commençait vaguement, mais voilà, c'était pas. Et donc, elle disait, non, mais en fait, moi, la photo, c'est un truc analogique. Pourquoi? Parce que, l'atome, entre guillemets, enfin, le pigment, c'est rond, le pixel, c'est carré, il y aura jamais de... Et en fait, maintenant, on va dire, plus 10 ans après l'avènement public du, la photo argentique, non seulement n'existe plus, on va dire, à part pour quelques passionnés qui ont raison de le faire, je veux dire, s'ils veulent le faire, mais en fait, en soi, quand on regarde, par exemple, les films, je sais pas, je regardais ce film incroyable qui est en français, je prends spécialement un film français parce que il y a moins d'argent en France pour faire, des films un peu à l'américaine, à la Steven Spielberg, etc., mais qui est La Nuit du 12 de Dominique Moll, que je trouvais incroyable.
Et c'est avec Bully Danner, c'est ça?
Exactement.
Oui, et en fait, qui a eu
des Magritte aussi.
Mmh. Voilà.
Mais en fait, ce que je voulais dire, c'était surtout pour parler de l'image, la photo est incroyable. Et on sent vraiment que c'est grâce au numérique, en fait. Enfin, quand on s'y connaît un peu en images, on voit que c'est en numérique parce qu'ils ont pu tourner avec un nombre vraiment limité de lumière.
Ouais.
Ils ont pu tourner en conditions très difficiles et ça fait toujours, c'est-à-dire qu'on sent que la caméra capte énormément de précision dans les noirs, etc. Donc, en fait, on est arrivé, mais bien au-delà de l'argentique. Et à l'époque, mais tout le monde autour de la photo était là, oh mon Dieu, les questions éthiques, les machins. Alors évidemment, ça posait, d'un coup, tout devenait virtuel. Donc en fait, le côté unique de la photo qui était déjà un peu à remettre en question et qui avait été de toute façon remis en question à partir du moment où c'était plus des daguerréotypes, tu vois, mais en fait des négatifs. Mm-hmm. Bon, finalement, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est pas le problème philosophique de maintenant, de 2022-2023, mais que en fait dans 10 ans, mais c'est intéressant de se les poser. Mm-hmm. Mais c'est aussi intéressant peut-être de se dire, bon, en fait, il n'y a pas lieu d'être pour et contre, quoi.
Merci Cédric d'être venu dans l'œil carnivore pour cette
merci à toi Damien, c'était très agréable.
Avec, j'espère que tu reviendras.
Hein, j'espère que tu m'inviteras de nouveau
pour nous parler d'IA, d'animation, peut-être au bif la prochaine fois.
Tout à fait, de cinéma.
Et pour parler de cinéma, d'animation, voilà. En tout cas, ça a été un plaisir. N'hésite pas à revenir et sur ce, portez-vous bien.